Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Delphine Equet pour nous parler de son spectacle Requiem pour les vivants au Théâtre de la Tempête du 12 mars au 12 avril. En chronique, on vous parlera de Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid de Julien Lekowski au Théâtre Paris-Villette du 19 mars au 4 avril. Au-delà de toute mesure de Elsa Agnès au Théâtre de la Tempête du 13 mars au 12 avril. Goodbye Lindita de Mario Banucci aux ateliers Berthier du 28 mars au 5 avril. Et on terminera avec Voodoo 3318 Blixen d'Angelica Liddell au Théâtre de l'Odéon du 27 mars au 12 avril.
Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
Mais on commence avec l'interview.
Delphine Equet, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais juste faire un petit pitch de votre spectacle. Donc, qui dit que chaque été à Marseille, des jeunes s'élancent du haut des rochers pour se sentir pleinement vivants. Depuis les falaises, ils défient le vide pour quelques secondes d'adrénaline. Et un jour, il y a un accident. L'un d'entre eux meurt. Et comment annoncer le drame à sa mère? Comment continuer à vivre? Et ma première question, ça va être Requiem pour les vivants. Le titre n'est pas mensonger. La pièce est bien découpée comme un requiem, comme une messe. Et sur le plateau, cela danse, cela chante, cela parle avec de la vidéo. Un décor qui déploie plusieurs espaces dans un même lieu. Est-ce qu'au fond, vous aviez envie de réaliser une forme qui tende vers l'opéra?
Oui, c'était une évidence dès le début de par le titre qui est arrivé très tôt voilà, dans mon intimité d'autrice et de metteuse en scène. D'abord parce que je suis depuis toujours fascinée par l'écriture des requiems qui sont des chants sacrés et qui, tout à fait étonnamment, ont une architecture, une dramaturgie similaire chez tous les compositeurs et compositrices qui ont réalisé des requiems. Et en fait, en m'y intéressant, en les regardant attentivement, en les écoutant, en les réécoutant, je m'apercevais que c'était comme le signe d'une dramaturgie qui pouvait être théâtrale. Donc tant mieux si c'est lisible en allant voir le spectacle, parce que c'était vraiment un vœu dès le départ. Et donc assez tôt, j'ai senti que ça pouvait être une forme dite opératique, mais pas avec les mêmes effets, oui. Puisque l'idée c'était quand même de rester très au présent avec des situations qui soient vraiment purement théâtrales et qui donnent naissance à la musique.
Donc merci pour rebondir justement sur cet aspect du sacré qui a une place très importante dans votre pièce, et vous en parlez aussi dans d'autres interviews. En fait, la référence biblique du prophète Jonas dans le ventre de la baleine et le concept même du coup de requiem qui est une prière pour le repos de l'âme d'un défunt nous apporte constamment cette dimension du sacré, du spirituel. Et pourtant, le religieux ne prend jamais le dessus dans la pièce. J'ai l'impression que cette pièce ne sacralise pas la mort, bien au contraire. Mais je me suis quand même demandé, qu'est-ce qui est sacré pour vous et à travers cette pièce? Est-ce que c'est la vie qui est sacrée? Est-ce que c'est le requiem? Est-ce que c'est la résilience, le deuil?
C'est une question qui resterait malheureusement sans réponse, parce que je crois que ça va dépendre vraiment de chacun et chacune en regardant le spectacle, c'est-à-dire comment ça vient résonner chez chacun d'entre nous. En tout cas, chez moi, qui ne suis pas croyante et qui espérait beaucoup plus, on va dire, de sacré dans ma propre culture, c'est un manque, en fait, réel, de ne pas avoir de verticalité, de quelque chose qui nous dépasse, notamment pour donner une réponse aux morts, à la mort, la mienne, future, celle de mes proches, de mes amis, quelque chose de tellement indicible et d'épouvantablement, comment dire, irrésolu. J'avais très envie d'essayer de donner une réponse théâtrale qui ne vienne pas avoir un rapport directement religieux, puisque en fait moi-même, c'est pas une direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Donc j'essayais vraiment de chercher des moyens qui sont des moyens ancestraux, hein, mais des moyens voilà dansés effectivement et des moyens de physicalité, de chant, de musicalité et aussi d'un rapport à la poésie parce que en fait la poésie elle aussi est dramaturgiquement très peut être très sacrée déjà et répond à des exigences de forme pour pouvoir provoquer des émotions. Et la musique a ce pouvoir-là aussi. Et je trouve ça magnifique que la religion se soit emparée justement de ces messes, de ces requiems pour pouvoir, en quelque sorte, imaginer que les défunts auraient droit au repos. Et donc, j'ai un peu inversé les choses en le proposant vivant, cette fois-ci. Et donc, voilà, un peu avec amusement, se dire que ça pouvait s'adresser à des gens qui n'étaient pas forcément croyants.
Et c'est bien que vous parliez de la poésie parce que justement, il y a chez vous un travail sur la langue qui est assez saisissant, avec des phrases qui continuent à résonner longtemps après les saluts, comme « charrier mon âge et mes ténèbres »,« je ne veux pas y entrer dans cette image » ou encore « la pénombre assiégée de fantômes ». Et cette langue, elle est intensément poétique, alors même que ce que vous racontez demeure très commun, très partagé. Comment vous procédez pour parvenir à cette langue ciselée, alors même que l'on apprend que vous travaillez à partir d'improvisation ?
Ça, c'est vraiment quelque chose que je défends dans mon travail et que dont je souhaite vraiment parler avec beaucoup de sincérité, parce que l'écriture de plateau est une manière d'écrire assez fréquente. Il y a pas grand-chose d'original. On entend beaucoup parler d'écriture de plateau dans le théâtre aujourd'hui.
Mais elles sont rarement poétiques. C'est ça qui est fou, dans ce que vous arrivez à obtenir, quoi.
Ouais, après c'est un gros travail de dramaturgie parce que là en l'occurrence vous citez des phrases qui ont été prononcées par Léo Antonin Lutinier qui était là aussi au laboratoire d'écriture au plateau. On a travaillé pendant une dizaine de jours justement sur des situations que j'avais données et je me souviens de cette improvisation donc qui est devenue ensuite le prologue où il avait utilisé ces mots-là. Et c'est des mises en situation qui le permettent, c'est-à-dire où on a évidemment parlé, nourri nos discussions autour de la mort, autour d'ouvrages qui nous ont interpellés, qui nous ont passionnés, pour lesquels moi j'ai eu besoin aussi de partager des choses avec les interprètes très en amont, dès les improvisations. Et la poésie, elle vient aussi de... C'est un peu une alchimie entre les interprètes qu'on choisit. En l'occurrence, je savais que Léo Antonin, c'était quelqu'un qui allait beaucoup vers ça, qui cherche dans les mots à percuter les consciences, quoi. Et c'est ce que fait la poésie. Et moi, je viens beaucoup de cette école-là, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, très tôt au collège, j'avais participé à un concours national de poésie. Je cherchais aussi comment, dans les dissertations, comment, en fait, dans le réel, on pouvait réinsuffler un mode de langage avec lequel on n'aurait aucun problème, qui sera un langage complètement, possiblement poétique. Pourquoi, en fait, quand on dialogue, on ne pourrait pas avoir ce même rapport-là à un langage qui soit pas forcément châtié, mais à un langage... Voilà, un langage qui va tout de suite droit à l'émotion, droit au sensible, je dirais plutôt. Ouais.
Alors, pour rebondir sur le sujet de la mort, c'est assez frappant. Sans l'avoir vraiment prémédité, cette émission accueille en ce moment plusieurs pièces qui parlent de la mort. Comme nous l'avions déjà remarqué en février à propos d'une autre tendance dans l'émission d'avant, celle du bifrontal, avez-vous le sentiment que le théâtre revient aujourd'hui vers la mort parce qu'il sent qu'il y a là un point de réel que beaucoup d'autres discours n'arrivent plus à saisir ?
Pardon,
c'est une question très, très importante, très grave aussi, un sujet assez grave. Grave dans le sens, pas seulement parce qu'il touche à la mort, mais aussi parce qu'en fait, il y a une défaillance. C'est-à-dire que, clairement, moi, je n'ai pas choisi de parler de la mort parce que d'autres allaient s'en emparer. Enfin, c'est vraiment un hasard total, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire que, évidemment, que si... En même temps, autant de gens peut-être de la même génération s'emparent de cette question-là, c'est bien qu'il y a une défaillance, qu'une culture peine à s'emparer du sujet depuis fort longtemps, ou l'évite aussi, c'est un principe beaucoup d'évitement quand même, le sujet de la mort. On ne la représente pas, on la cache, on en parle tardivement à nos enfants, on ne voit pas les corps, on n'est pas du tout dans une culture ou une société qui qui permet ça, même les représentations picturales. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui vient masquer, qui vient de suite avoir peur de ça, en fait, clairement.
Notre premier morceau de la soirée, Belle Sueur, de l'artiste Malik Djoudi. Nous sommes toujours en compagnie de Delphine Eke pour nous parler de son spectacle Requiem pour les vivants au Théâtre de la Tempête du 12 mars au 12 avril.
Et dans le même mouvement, par rapport à cette poésie, je me demandais si, au-delà de ce travail poétique, il y avait aussi chez vous une couche plus psychologique. Parce qu'on croit percevoir, sans que ce soit jamais plaqué, hein, c'est toujours très fin, il y a quelque chose comme les grandes étapes du deuil. Est-ce que, genre la colère, le déni, ces choses-là, est-ce que ça a nourri votre travail ou est-ce c'est une reconstruction de spectateur?
Non, c'est vraiment complètement une chose que j'avais envie de partager. Je n'ai pas de complexe avec les émotions sur un plateau, à les délivrer, à essayer de s'en emparer au risque de parfois le montrer trop. Je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens se racontent aussi leur propre histoire en regardant un spectacle. Ça ne touche pas les gens au même endroit. J'étais même assez surprise en parlant avec des spectateurs il y a quelques jours qui me disaient que finalement, ce qui les avait beaucoup touchés, c'était la relation mère-enfant et la question du regret, par exemple. Mais ça, c'est des choses qui, moi, me touchent personnellement. La scène de l'annonce, par exemple, à la mère, on l'appelle la scène de l'annonce, mais moi, je l'appelais beaucoup la scène du déni, puisque c'était une scène où ce qu'on cherche à montrer en mise en scène, c'est le fait que c'est impossible d'entendre cette annonce. Et donc, c'est le déni, c'est le magnifique déni de cette femme qui parvient, par la force de l'imagination, à chaque fois à les mettre en échec, les uns après les autres, et jusqu'à se retrouver face au corps, évidemment, qui dit tout. Et ça, c'était important pour moi de chercher comment les émotions pouvaient passer par des outils qui ne soient pas forcément des outils psychologisants. Oui. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des outils qui soient des moyens qui viennent nous percuter d'une manière intense, quoi, comme des sensations physiques, en fait, comme des frissons, comme avoir froid, faim.
Oui, ben oui, c'est tout à fait ça. Le travail chorégraphique, très physique, très heurté, peut faire penser par moments à Wim Vandenkebus, à Peeping Tom aussi, bon, alors bien sûr à la Horde. Et pourquoi vous avez choisi pour ce spectacle une danse de l'impact, du choc, presque à l'épreuve? Est-ce que c'était une façon de dire combien ces êtres ont besoin de se sentir vivants? Est-ce que vous avez choisi cette physicalité de l'impact pour faire sentir que face à la mort, il ne leur reste plus que l'épreuve brutale du vivant? Ou faut-il y entendre juste une résonance avec Marseille, dont la Horde dirige le ballet?
Alors non, c'est pas la dernière phrase qui compte. C'est effectivement, je pense, une danse qui... je vais aller plus loin, une physicalité, un mouvement qui doit aller dans le sens de la situation théâtrale et faire honneur à un récit qui va quand même entrer dans des ténèbres, clairement. Donc il y a l'imaginaire qu'on peut avoir avec un corps qui n'est plus un corps reconnaissable, hein, qui est donc un accident qui comporte deux grandes violences qui sont la mort jeune d'une part et la mort qui abîme la représentation qu'on a de la personne, donc le corps est en morceaux. Donc on va aller parler du corps d'une certaine façon, on va chercher à ne pas représenter ce qui est irreprésentable, mais on va chercher à raconter comment en fait il existe dans la mémoire des êtres qui restent. Il y a ça d'un côté, et il y a donc aussi ma rencontre avec les deux chorégraphes qui sont Vito Giotta et Angel Martinez Hernandez, avec qui j'ai beaucoup discuté en amont et avec qui on a partagé ça ensemble. Je leur racontais un peu qu'est-ce que j'aimais aussi dans le rapport entre le texte et le corps. Il se trouve que Peeping Tom faisait partie des références que j'avais, et j'avais montré des vidéos. Il y avait aussi Pina Bausch, évidemment, qui part du geste aussi, qui repart du geste, en tout cas pour recomprendre la danse. Et donc, ça revient souvent, même là, au fur et à mesure des représentations, je leur redis, attention, les visages ne doivent pas re-raconter ce que les corps racontent déjà dans la danse, parce que c'est beaucoup plus puissant, en fait, de les voir, par exemple, raconter la joie avec une chorégraphie qui va passer d'abord par des portées de la hauteur, un buste très très haut, et puis tout d'un coup le dernier porté en fait tombe en dôme et donne l'image de l'un des leurs qui soutient le corps de Jonas qui vient juste de mourir. Donc effectivement il y a eu comme ça dès l'écriture une volonté de ma part de partager beaucoup avec Angel et avec Vito à chaque étape de l'écriture les images qui me venaient, et j'ai eu beaucoup de chance qu'ils soient aussi talentueux pour les traduire chorégraphiquement.
Oui, et en plus, c'est juste véritablement de voir qu'en fait, il y a une dramaturgie de cette danse qui va avec la dramaturgie complètement de la pièce, en fait. Hein. C'était le sens de ma question. Lance celle-ci, Nina. Vas-y.
Est-ce que vous laissez sciemment planer le soupçon du suicide?
Parce qu'on ne sait pas du tout. C'est le film que je me suis fait. Hein. Je me suis dit, ah, c'est pas possible, en fait. On ne sait pas s'il n'a pas voulu, s'il n'a pas choisi, je ne sais pas.
En fait, c'est arrivé à un moment donné dans l'écriture où vraiment j'étais vraiment plus du tout avec les interprètes, j'étais vraiment toute seule à cette étape-là. Et j'avais écouté beaucoup d'émissions sur le coming out, par exemple, sur le fait que l'homosexualité de Jonas soit l'une des difficultés portées par la relation avec la mère, enfin qu'il y avait un conflit entre eux, notamment par cette homosexualité, et que donc peut-être que la mère pouvait à un moment donné se demander, en tout cas elle est en droit de se demander si l'accident n'était pas un suicide. Mais c'est une piste dramaturgique que j'ai évacuée assez vite en me disant de toute façon ça restera dans les consciences, mais ce n'était pas en tout cas un souhait d'aller dans cette direction. On a même failli parler d'enquête parce que quelqu'un aurait pu le pousser aussi, par exemple. Ça aurait pu être un homicide. Mais là, on allait vraiment basculer dans une dramaturgie qui allait nécessiter au moins une heure de plus, en fait, de plateau, je pense. Ouais.
Notre deuxième morceau de la soirée, Bergain, de l'artiste Rosalia. Nous sommes toujours en compagnie de Delphine Eke pour nous parler de son spectacle Requiem pour les vivants.
Sans que cela en soit le sujet principal, votre œuvre est liée à l'actualité par la radio écoutée par la mère, notamment au début, et ça revient un peu dans les dialogues. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'une manière d'apporter du militantisme dans vos pièces, de faire passer un message d'une manière ou d'une autre Et est-ce que c'est important pour vous? En quoi c'est important pour vous? On voit aussi qu'il y a cette normalisation de l'homosexualité, juste parce que d'un coup, Jonas va dire à sa mère « mon copain » et puis on ne revient pas forcément dessus.
Cette question en même temps, la question du podcast qu'écoute la mère, c'est venu d'abord d'une envie d'ancrer évidemment le récit dans une réalité dans laquelle on se reconnaît, donc on arrive à capter l'époque. C'était une époque où c'était le début du conflit. On parlait même encore de conflit, hein, pas de guerre israélo-palestinien. Donc c'était la question du cessez-le-feu, du premier cessez-le-feu. Et donc il revenait en boucle, il passait en boucle. Moi-même j'écoutais en boucle, donc évidemment je me sentais très concernée et je trouvais ça assez inévitable d'en parler dans la pièce parce que par ailleurs je souhaitais que la mère soit connectée à un conflit qui n'est pas le sien, c'est-à-dire qu'elle évite le conflit qu'elle a avec son enfant et qu'elle soit accaparée par le conflit des autres, pour lesquels elle passe beaucoup de temps à s'interroger, à réagir, à être très sensible, là où le conflit qu'elle a avec son enfant n'avance pas. Et même n'est pas lisible en tant que conflit réellement. Finalement, est-ce que ça leur va pas comme ça, la vie? J'avais envie de créer un parallèle comme ça, d'avoir à la fois l'accès, mais très très faiblement, parce qu'on l'entend à peine. D'ailleurs, il a été question qu'on le remette...
au goût du jour.
Ouais. Mais en fait, la pièce a été écrite à un moment donné, donc ça a modifié beaucoup de choses de changer l'actualité. Et puis de toute façon, malheureusement, l'actualité pâtit. Mais j'ai failli choisir plutôt la guerre en Ukraine, et puis en parlant avec mon équipe, il me parlait de la guerre et pourquoi pas la guerre en Ukraine, et je leur ai répondu, ce qui est terrifiant, c'est d'avoir le choix entre eux. De quelle guerre parler dans un spectacle. Je me disais, mais en fait, je pense que le conflit israélo-palestinien et cette question du cessez-le-feu se connectait directement au fameux cessez-le-feu qu'on espère entre Jonas et sa mère et que la mort vient en quelque sorte résoudre, en tout cas taire, et faire parler post-mortem. Et l'autre question de l'homosexualité, alors je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris exactement la question.
Non, c'était plus pour relier ça à la question d'une manière d'intégrer du militantisme dans votre pièce.
Oui, alors effectivement, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi les endroits où c'est anguleux, c'est-à-dire que l'homosexualité aujourd'hui est très, la parole est très libérée, et pour autant, il existe encore toute une génération de pères et de mères qui négligent beaucoup ça. En écoutant les podcasts sur le coming out, il y avait un podcast passionnant là-dessus, hein, il y a eu même une série là-dessus. Bah, je me disais en fait, clairement, il faudrait aller montrer ça, en fait, que peut-être que le nœud entre eux vient aussi du fait qu'ils ne se comprennent pas. C'est pas tant qu'elle n'accepte pas l'homosexualité de Jonas, je pense que c'est qu'elle ça ne l'intéresse pas. Au même titre que ça aurait été une femme dont il est amoureux, je pense que ça ne l'aurait pas intéressé non plus, mais voilà, ça vient vriller à un endroit. Je pense que Jonas attendait plus justement de sa mère et que ça ne vient pas. C'est plutôt que c'est le désintérêt qui est intéressant. Mais le militantisme associé à l'acte théâtral ou artistique m'intéresse énormément. Et je crois qu'on peut aussi passer par des biais poétiques pour sensibiliser sur des questions très très cruciales quoi, d'époque.
Les dialogues et le jeu, ils paraissent souvent légèrement décalés, comme désajustés. On pense bien sûr à un effet brechtien de distanciation, mais il y a aussi un flottement que produit la mort, à l'absurdité qu'elle ouvre, à la perte du sens. Puis il y a cette phrase, pourquoi vous avez toujours besoin de tout comprendre, même l'indéfinissable ? Et dès lors, on se demande si le spectacle ne serait pas aussi en partie un spectacle un peu méta sur le théâtre lui-même. À force de voir ses corps s'élancer dans le vide, de voir ce sens se dérober, on finit par se demander si votre spectacle ne parle pas aussi du théâtre et de ces acteurs condamnés à recommencer chaque soir un saut dans l'inconnu. Est-ce que c'est une lecture abusive en fait ?
Et non, pas du tout, parce que c'est vraiment ce que je leur dis à chaque fois, même en note aux interprètes. Je leur dis en fait, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais les interprètes, vous êtes au même endroit que les personnages, c'est-à-dire que vous êtes d'abord dans un désœuvrement, parce que la mort vous met dans cet état-là, vous met à l'arrêt, vous met en état de sidération, et donc de reconsidérer l'espace, hein, de recontacter le réel, parce que je pense que quand on est confronté à une mort aussi épouvantable que celle d'un jeune homme de 20 ans dans ces conditions, on est tenu de reconsidérer le réel. Et donc, effectivement, il y a alors, méta, je ne sais pas, mais en tout cas, le théâtre, c'est vraiment un langage très particulier, et déjà en soi, puisqu'en fait, on est en train de rejouer tous les soirs la même histoire. Enfin, on est très loin du cinéma où on a l'impression d'être proche dans l'intimité d'une réalité, d'une fiction, alors que le théâtre, de toute façon, nous montre que c'est vivant et que tous les jours, il faut recommencer, etc. Donc en fait, oui, il y a une sorte de fantaisie, en tout cas, en travaillant à se dire, en fait, on est en train de faire quelque chose d'absurde et on est en train d'essayer, surtout, c'est une expérience. Donc, en fait, c'est pas une représentation un peu normale, habituelle.
Oui,
avec,
c'est pas quotidien.
Non, il n'y a pas quelque chose de quotidien. Il y avait vraiment une volonté de ma part de proposer à toute cette équipe d'entrer dans une forme. J'ai pas forcément envie de dire irréelle parce que ce serait proche de la science-fiction ou de quelque chose sur laquelle on n'a pas de prise, mais pour moi vraiment c'est quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire je pense que c'est la représentation de ce qu'on n'arrive pas à montrer justement, c'est-à-dire ce qu'on ressent, le tunnel dans lequel on se retrouve quand on est confronté à la mort ou confronté à un abandon, à une rupture, enfin tous les deuils possibles.
On a une dernière question.
Votre projet paraît généreux au sens fort, au sens ambitieux du terme. Il mobilise plusieurs langages, plusieurs régimes de présence, plusieurs espaces, sans renoncer à l'ampleur, au nombre d'acteurs au plateau par exemple, dans le contexte de production que nous connaissons. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on aura encore la possibilité de faire exister de tels projets ?
Désolé.
Bah, je l'espère, évidemment. Je peux que dire ça. J'ai un peu la tentation de répondre que si on s'arrête de le faire, inévitablement, il n'y en aura plus, puisqu'en fait, c'est un peu vers ça qu'on nous pousse, hein, au final. Je crois qu'il y a des œuvres qui doivent se faire avec beaucoup de monde au plateau, parce que ça ne dirait pas la même chose. On a essayé d'imaginer un groupe plus petit, mais ça fait tout à fait autre chose. C'est presque plus familial. Il aurait fallu peut-être raconter des cousins, des cousines, frères et sœurs. Mais là, tout d'un coup, l'idée, c'était pas tellement une bande d'amis au départ, hein. C'était des gens qui se retrouvaient pour cette pratique-là du saut dans le vide, dans les calanques. Et en fait, c'est pas forcément des gens qui se connaissent si bien. Donc en fait, pour tisser des liens dramaturgiques, ça devenait assez compliqué si on réduisait, parce qu'on pouvait pas du coup donner l'idée que c'est un groupe de gens qui voilà, étaient là au même moment, à cet endroit-là, sur la calanque. Voilà, mais sur les questions de production, c'est sûr que c'est assez affolant, parce que avant, les contraintes de production pouvaient même générer des idées artistiques, et maintenant, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et voilà, moi, j'entends le besoin de réduire et d'essayer d'y réfléchir vraiment sincèrement à chaque projet. Mais je crois qu'il faut écouter aussi les besoins de la narration. Et on ne peut pas faire que des seuls en scène, on ne peut pas faire que des binômes. Enfin, au bout d'un moment, on va avoir comme ça je m'imagine que dans 200 ans, quand on lira les pièces d'aujourd'hui, les historiens diront, en fait, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de monologues parce qu'il n'y avait plus les moyens de raconter des histoires à plusieurs. Mais je pense qu'on se réinventera aussi. C'est-à-dire que si on en arrive là, les récits de monologues, de narrateurs et de narratrices seront diablement rempli d'images et de sens aussi. J'imagine qu'on est assez intelligent pour arriver à faire ça.
Delphine Eke, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bah, merci à vous. Merci beaucoup.
À bientôt. Morceau de la soirée, Yassa, de l'artiste Tony Gaetani. Et maintenant, c'est le moment des chroniques. Et la virgule, Guigui, et la virgule, il nous manque la virgule. Bon, bref. Alors, ce soir, on va donc vous parler de « Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs d'effroi » de Julien Lekowski au Théâtre Paris-Villette du 19 mars au 4 avril. « Au-delà de toute mesure » de Elsa Agnès au Théâtre de la Tempête du 13 mars au 12 avril. « Goodbye, Lindita » de Mario Banucci aux Ateliers Berthier du 28 mars au 5 avril. Et on terminera avec « Voodoo 3318 Blixen » d'Angelica Lidl au Théâtre de l'Odéon du 27 mars au 12 avril. Et on commence avec « Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs d'effroi » de Julien Lekowski.
Lekowski,
au Théâtre Paris-Villette.
Ou Ljukovic.
On vous écoute demain.
Et bah, attention, bijoux. Hein, parce que bijoux. Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid de Julien Ljukovic. Et de ces spectacles qui paraissent modestes et qui, mine de rien, accomplissent beaucoup. Un théâtre documentaire d'une grande finesse, très écrit, très monté, qui parvient à faire remonter non seulement une époque, mais sa température morale, sa nervosité, sa part de risque. Le point de départ, la dernière émission de Lune de Fiel sur Radio FG en 1989. Des auditeurs appellent pour parler sans filtre de leur sexualité, de leur intimité, de leur pratique. C'est cru, c'est drôle, souvent très touchant. Mais derrière cette liberté de façade, cette désinvolture, cette provoque parfois un peu potache, il y a l'ombre portée d'une pandémie qui, elle, ne laissait aucune chance. Le sida n'est pas ici un sujet plaqué, il est le climat même de la pièce, sa basse continue qui rôde derrière chaque éclat de rire. La grande intelligence de Ljukovic est de ne jamais surplomber son matériau. Il ne corrige pas ses voix, il ne les anoblit pas, il ne les les transforme pas en archives pieuses, il les laisse dans leur ambiguïté, leur drôlerie, leur trivialité. Et cette vulgarité a ici quelque chose de très noble, elle rappelle celle dont parle Mishima dans Confession d'un masque, non pas une bassesse mais une liberté propre à ceux qui vivent à la marge, à ceux qui n'ont pas le luxe de la bienséance, à ceux qui inventent dans la langue une manière de tenir debout. Ce qui frappe surtout aujourd'hui, c'est la liberté de parole de cette époque, comme si nous avions perdu cela, peut-être parce qu'il ne s'agit encore d'un moment sans écran ou avant leur règne sans partage. Les choses ne se montraient pas, elles devaient se dire, et elles devaient se dire d'autant plus que l'acte était dangereux, risqué, mortel. On ne se souvient pas assez de ce que fut cette pandémie comme expérience vécue, non pas seulement une catastrophe sanitaire mais une manière d'habiter le désir sous menace. Il fallait pouvoir exhiber son intimité quand autour on crevait en silence. La forme est très habile, les monologues de fiction écrits par Julien Lukovic se mêlent aux archives sonores qui passent en voix off puis repassent sur les voix des comédiens. Cela se superpose, se chevauche, se contamine, si j'ose dire. Le montage est d'une grande précision. On retrouve sur scène l'adrénaline d'un studio de radio, celle du direct sans filet, quand une parole part avant d'être tout à fait pensée et peut soudain déborder. Le spectacle ne reconstitue pas un studio, il en retrouve la tension. Quelques signes suffisent alors à faire monde. On fume beaucoup au plateau, de vraies cigarettes. Le danger est déjà là, hein, signifié et incarné. Dans l'air, dans la toux, dans les corps. Et cette toux renvoie évidemment à une autre menace, la playlist, elle, fait revenir les années 80 sans les empailler, leur séduction un peu désuète, leur gaieté déjà fêlée. Il faut saluer aussi l'absence de militantisme au sens étroit. La pièce rappelle les luttes, bien sûr, mais elle ne se laisse jamais enfermer dans le théâtre édifiant de la bonne cause. Elle travaille plutôt le souvenir, l'émotion, la persistance des voix. C'est en cela qu'elle touche juste. Elle ne donne pas une leçon sur le sida, elle nous remet avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse au contact d'un moment où parler était encore une façon de lutter contre l'effacement. Rarement un spectacle aura si bien fait entendre qu'une pandémie peut aussi mourir dans l'oubli. Ici, heureusement, cela parle encore et cela parle très bien. Julie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, j'ai trouvé ce spectacle très intéressant. D'une part, parce que je trouve que le metteur en scène a notamment beaucoup joué sur la superposition de différents tableaux. On avait souvent deux tableaux qui étaient superposés. Sur scène. La matérialisation du souvenir était aussi une chose très très intéressante. On part d'un homme qui retrouve une cassette et qui revit un souvenir qui l'a tant affecté. Ça nous permet aussi de se poser la question de comment le présent et le passé peuvent cohabiter en fait, et comment le passé peut nous hanter d'une certaine façon. Par ailleurs, j'ai trouvé que quand j'ai vu la pièce, on rit, on est attendri, mais on est aussi agacé. On est agacé non pas par la pièce en elle-même, mais c'est grivois en fait, et ça se veut comme ça. Les archives étaient telles quelles, et il y a aussi du coup ce mélange entre les différentes langues, la langue d'archives et la langue plutôt fictionnelle, qui est une langue plus parlée, plus grivoise, plus vulgaire, et ça joue beaucoup sur cette répétition là aussi tout au long de la radio, hein, qui sont en train de retranscrire finalement.
Et on a bien ri.
Et on a bien ri. On a bien ri. Vraiment, les comédiens sont n'ont pas de limite finalement. Hein. Et c'était très très enrichissant, je trouve.
Merci beaucoup Thomas et Julie pour cette chronique. Et on passe maintenant à la deuxième chronique de la soirée. Au-delà de toute mesure, de Elsa Agnès au Théâtre de la Tempête, qui est jouée du 13 mars au 12 avril. Donc Guigui et Julien, on vous écoute. C'est pour toi, Guigui, la chronique, on t'écoute.
Alors bon, effectivement, je n'y suis pas du tout allé avec Julien, je suis allé avec Hans, mais c'est pas grave, on n'est pas allé le même jour, ça n'a aucun intérêt.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc on est au musée, on est au musée avec des gardiens de musée, c'est Marie et Giovanni. On capte petit à petit qu'on est dans un musée à Venise. Et puis c'est le moment de l'acqua alta, donc pour les non-italophones, c'est l'eau qui monte partout et puis qui se met même à déborder dans le musée. Un musée complètement vide, il s'y passe globalement rien, c'est une sorte de léthargie au départ. Alors Julien n'est pas d'accord, il nous expliquera son point de vue, mais une léthargie, il mange des petits tramezzini, c'est les petits sandwichs triangulaires. il y a quelques mots qui s'échangent, ils commencent un peu à s'animer. Et puis finalement, en fait, il y a cette touriste qui vient visiter le musée, mais alors pas à la manière des exhaustifs, là, ces personnes qui vont tout voir, tout lire, tout ça. Non, elle vient toujours regarder le même tableau et regarder un petit morceau du tableau. Elle vient s'imprégner. Et petit à petit, en fait, ils font connaissance tous les trois, les deux gardiens et donc cette touriste. Et en fait, les tableaux se mettent à surgir littéralement, explicitement. Alors, je vois Julien qui est de moins en moins content et qui surgissent et qui sont exposés au public. Alors effectivement, Julien, je te vois douter. Quand j'ai lu le petit papier, voilà, je me suis dit que je suis complètement passé à côté du bordel. Mais, c'était, moi j'ai trouvé ça pas mal. Mais toi, Julien, t'en as pensé quoi ?
Alors moi, j'ai été agréablement surpris. Alors j'avais peut-être besoin, en y allant, d'un moment de légèreté. C'est exactement ce qu'on avait là. Un moment très léger. On est dans l'univers un peu plan-plan de ces deux gardiens de musée, parce que qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plus routinier que la vie de gardien de musée ? Et effectivement, l'arrivée de Violaine, cette touriste, fait que les choses changent, mais elles changent tout en délicatesse, comme si c'était naturel que ça change. Et il passe à quelque chose où on est dans l'envie d'explorer, une espèce de situations, d'histoires d'amour un peu croisées, mais d'amour entre de l'amour réel, enfin de l'amour entre hommes et femmes, un amour un peu filial qui se développe. Ce rapport très particulier au tableau, très particulier à la nuit, cette idée quand même de la nuit dans un musée, qu'est-ce qui peut bien se passer si on reste là ? On n'est pas dans le film hollywoodien, on est dans quelque chose de plus léger, de jeu dans les lumières, une envie de s'approprier l'espace. J'ai trouvé que ça pouvait paraître décousu, et en même temps, voilà, je suis sorti de là avec une véritable impression de bien-être. Franchement, je vous conseille d'y aller.
De bien-être. Donc tu parlerais de pièce thérapeutique.
Ah, peut-être.
D'accord.
Donc, si vous voulez voir cette pièce thérapeutique et vous faire votre avis, n'hésitez pas à aller au Théâtre de la Tempête jusqu'au 12 avril. Et on passe maintenant à notre troisième chronique, Goodbye L'Indita de Mario Banucci, aux Ateliers Berthier, qui a joué du 28 mars jusqu'au 5 avril. Donc Thomas et Léna, on vous écoute.
Bah, c'est Léna qui m'a soufflé cette pièce au moment où je préparais l'émission. Alors nous voilà donc à l'Odéon, enfin aux Ateliers Berthier, hein, devant Goodbye L'Indita de Mario Banucci, un spectacle sans parole créé en 2023, construit autour d'une famille réunie près d'un corps et nourrie de rituels balkaniques autant que d'iconographie chrétienne. Et dans la salle, disons-le, le public n'est pas exactement en fusion. Hein. Vieillesse chenue, canne à profusion, doudoune sans manche. Ce n'est pas un concert de Blackpink, non. Encore un spectacle sur la mort. Cette fois, c'est une famille endeuillée qui a perdu sa fille et, sans un mot, elle va vivre ce deuil à coups d'images presque picturales, composées avec un soin maniaque, puis offertes à notre admiration supposée. Au plateau, un appartement modeste, chaise en formica, télévision à tube cathodique, intérieur d'un autre temps. Le spectacle flatte sans peine l'imaginaire des boomers présents. Ils ne seront pas dépaysés. Nostalgie, nostalgie. Avec en prime un léger vernis exotique, presque folklorique, qui permet d'esthétiser la mort. Et heureusement, car sinon, pourquoi nous convier à cette veillée funèbre ? Pourquoi nous montrer du quotidien, ce quotidien que nous voyons déjà très bien sans payer, et que pour être honnête, nous n'avons pas spécialement envie de revoir sur scène, hein ? Le corps mort est là, caché dans une commode qui devient lit, nu. On le lave, oui, c'est ce qu'on fait avec un mort. Puis on l'habille, oui, c'est aussi ce qu'on fait avec un mort. Sauf qu'ici, on jette de la terre sur le corps avant de l'habiller. Il faut bien dérouter un peu, hein, produire de l'étrangeté, faire signe vers la cérémonie plutôt que vers la simple reproduction. Le problème, c'est que tout cela demeure d'une littéralité assez confondante. Le rite, le deuil, le dénuement face à la mort, tout finit par être montré comme tel, avec une application presque scolaire. Les acteurs. Ben, ils entrent, ils sortent comme dans un vaudeville. Sauf qu'ici, la porte ne claque pas, elle grince, façon thriller. On attend presque le rire de Vincent Price. Dans la salle, c'est silence, si silencieux qu'on entend un spectateur ronfler. Il applaudira sans doute à la fin. Entre-temps, le père rit au téléphone pendant que les femmes pleurent dans la maison. Ah, oh, trop poncif, les hommes ne savent pas montrer leurs émotions. Ouh. Puis cette pantomime s'emballe et tout le monde, ou presque, se déshabille pour signifier le dénuement face à la mort. Presque littéralement, donc. mais le père s'y met. Ah, on pense à Théorème de Pasolini et l'on se dit que la pièce aura au moins permis cela, redonner envie de revoir un vrai grand film. On comprend bien ce que Mario Banucci cherche, un théâtre d'images, une liturgie domestique, une méditation visuelle sur le deuil. D'autres y voient de la poésie scénique, un chapelet de vision, une contemplation où les gestes quotidiens se chargent de sacrer. Moi, j'ai surtout vu une suite de tableaux très composés, très conscients d'eux-mêmes, qui demandent à être admirés, puis plus qu'ils ne nous déplacent. Cela se regarde, cela ne vit guère, véritablement. La fin, dans une odeur de bain-joint, avec sa fumée poussée au ventilateur qui éventre le salon bourgeois pour faire apparaître une Pietà noire, achève le programme. Ma voisine me glisse. Oh, ça m'a fait penser à Pina Bausch. Oui, sans doute, Pina dans les années 70. Pina, mais sans la vie, sans l'humour, sans le tremblement. Une image après l'autre et pas grand-chose qui insiste autrement que par son sérieux. On sort en se demandant pourquoi s'infliger cela, puis on se répond un peu honteusement parce qu'à Paris, dès qu'on encadre le deuil dans de belles images et qu'on ralentit beaucoup, il se trouvera toujours une salle pour croire à la profondeur. Léna, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
C'est toujours super de parler après toi, Thomas. Alors, je pense effectivement qu'il y a des éléments qui m'échappent dans cette pièce, déjà car je n'ai pas l'âge moyen des spectateurs dans la salle, mais aussi parce que je n'ai pas toutes les références des cultures albanaises et des Balkans. Ça parle de mort. C'est inspiré de la mort de la belle-mère de Mario Banucci, du coup le metteur en scène, un être qui lui était cher, et on voit comment sa famille a vécu ce deuil. Et je pense que le deuil est quand même compliqué à représenter sur scène sans être dans le cliché, même si toi tu as quand même vu du cliché, Thomas. Et pourtant, on comprend directement, ça commence avec une tache de terre sur la moquette, on se demande d'où elle vient, et cette tache de terre est aspirée par le père. Et ensuite, on découvre le corps nu de Lindita, qui sort d'une commode, donc on se dit déjà que l'actrice est très souple et c'est vraiment ce qui m'a marqué. Donc un des avantages du no-tex, c'est qu'il n'y a, enfin, que, du fait qu'il n'y ait pas de parole dans la pièce, c'est qu'il n'y a pas besoin de traduction. Et traduire, c'est trahir, donc pas de trahison, et ça c'est génial. Les acteurs sont aussi très forts, je trouve que tout se joue dans les regards, dans les gestes, dans les adresses. Je suis aussi très friande de tout ce qui est décor amovible qui se transforme, ça a un côté assez ludique je trouve, et là pour le coup j'ai été servie. J'avais vraiment, comme tu l'as dit aussi, l'impression de voir des tableaux surréalistes qui s'enchaînent, mais cette fois en direct, et j'ai trouvé ça plutôt vivant pour une pièce sur la mort. J'avais un peu l'impression de voir des Magritte animés. Il y a parfois un bras qui sort du mur de derrière un tableau, et puis une armoire qui se transforme en lit, et un lit qui se transforme en baignoire. Enfin, je voulais juste noter la performance dansée de l'actrice et danseuse Evtikia Stefanou. Je sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais je trouve qu'elle est puissante et belle, mais assez difficile à regarder.
Merci beaucoup Léna et merci Thomas pour cette chronique. Donc, si vous voulez vous faire votre avis, vous avez jusqu'au 5 avril pour aller aux ateliers Berthier. Et on passe maintenant à la dernière chronique de la soirée. On va parler des Voodoo 3318.
Et c'est toi, Camilla, d'Angelica qui l'a Lidl.
Et merci Thomas de m'avoir envoyé voir cette pièce. Merci. Donc, je commence et après je te donne la parole, Alice. Donc, Angelica Lidl nous livre ici une nouvelle pièce des 5h30 qui démarre sur l'histoire de la baronne danoise Karen Blixen, connue sous le nom d'Isaac Dinesen, qui aurait vendu son âme au diable à condition qu'il fasse de sa vie une histoire digne d'être écrite. À partir de cette anecdote, Angelica Lidl développe un spectacle en 5 parties. La première commence fort, avec Angelica Lidl, splendide, habillée en fauve, qui chante mal pendant 20 minutes, ne me quitte pas de Jacques Brel. Et c'est une épreuve. Et cette première partie, elle dévoile les sujets de voodoo. Une trahison amoureuse, un abandon qui l'a plongé dans le désespoir le plus absolu et la colère la plus noire. Pendant 5h30, Lidl maudit cet homme et crie son amour. Nous assistons à des rituels macabres et à une vraie analyse, à une analyse des rapports amoureux et des relations de pouvoir qui se jouent dans nos relations. À travers son histoire, Angelica met à l'index notre société tout entière, évidemment, qui se renferme dans un égocentrisme démesuré où le véritable amour n'existe presque plus. Dans cette pièce splendide, nous retrouvons l'essence du théâtre comme un rituel, un peu à la Castellucci, et on sort de cette marathon avec les corps plus légers, je ne sais pas toi Alice. Et là, je voulais vraiment citer Angelica parce que je ne peux pas parler mieux avec ces mots. Oui. Pour dire vrai, mon théâtre est spirit. On peut dire que je pratique le spiritisme avec les poètes, mais les sont traversés par leur influence jusqu'à les somatiser. Je suis une romantique éperdue. Nous, les romantiques, nous sommes amoureux de la mort, possédés. Nous sacralisons les mondes des passions, ce qui finalement nous définit comme humains. Lorsque la vie frôle son excès. Nous devons faire un sacrifice en échange de l'art. Nous livrons notre âme en sacrifice. Nous succombons pour la beauté. Fin de la citation. Donc, Angelica, j'ai adoré. J'ai adoré l'écriture meurtrière, évidemment, son intensité, son outrance, sa capacité de dévoiler sur scène, pour nous montrer un miroir impitoyable qui nous fait réfléchir à notre misère. Il y a des moments de vision véritables où on voit, effectivement, vous parlez des tableaux sur scène pour Banouchi, mais là, on voit des tableaux énorme. On voit un homme couvert des poids qui s'éroule dans les blancs d'ourie et qui ressort comme un poulet plein de vermine. La mort, notre finitude, comme est souvent dans les spectacles de Lidl, est une particulière présente dans toute sa splendeur. Je remercie Angelica Lidl de ses sacrifices auxquels nous avons assisté. Jamais un spectacle m'a autant touché en ces moments-là particuliers. Dans son élan, Angelica Lidl nous secoue, nous réveille et ça nous exhorte à sortir de cette léthargie émotionnelle, de cette peur, d'aimer permanente alors que notre temps est si bref. Donc, courez voir cette prêtresse des ténèbres, cette sorcière du théâtre. Et je voudrais terminer avec une petite citation. J'ai le temps ?
Oui, oui, t'as le temps.
Alors, donc, je termine avec un petit extrait des voodoos. Je me trouve en dehors du zoo des égotistes, de l'hypermarché libidinal, frivole et léger. J'ai toujours penché vers ceux qu'on nomme habituellement les gens sérieux. J'appartiens au clan des très tristes, bien plus joyeux et sauvages, pas vraiment drôles, mais audacieux, décidés, intrépides. Nous sommes fous pour des vrais. Et si je suis fière de ma tendance à la solitude, c'est parce que je ne trouve rien de plus digne en moi. Qu'on utilise la peau de mes fesses pour relier une Bible. Je ne serai pas plus dépecée après ma mort que de mon vivant. Je félicite ceux qui ont joui de m'humilier. Grâce au mal qui m'a été infligé, ma méchanceté a galopé sans trêve avec l'inconscience d'un pur sang. Tous ceux qui m'ont humilié m'ont donné un super pouvoir. De chacune de mes blessures, j'ai tiré une force. Sans vos coups de fouet, je n'aurais pas été Angelica. Angelica n'aurait pas écrit un seul mot sur la rage. Bientôt le feu effacera toutes les injures. Imaginez mon cerveau en train de bouillir dans le four du crématorium, comme les cerveaux des sorcières, comme il a bouilli grâce à votre mépris. N'oubliez pas de glisser un livre des Baudelaire dans la poche de mon linceul. Je veux que les cendres de mes os se mêlent aux cendres de ses poèmes. Je veux un livre avec des vertes vallées et des hautes montagnes aussi hautes que Marguerite Duras. Et Alice, toi, tu en as pensé quoi ?
Alors, c'est attention, ce que tu vas dire. C'est fou parce qu'on n'a vraiment pas du tout partagé. Enfin, c'est vrai. Alors, c'est peut-être que j'étais pas dans la même vibration que toi. Pour moi, c'est une histoire d'amour qui finit mal. Il s'ensuit toutes les nuances des sentiments, des émotions et des actes liés à cette déception. Comme si le pacte de ce qui fait notre humanité s'efface pour laisser la place à la cruauté sous toutes ses formes. Une folie égocentrique qui ressemble horriblement à l'état du monde actuel. On se demande qui des deux, entre l'homme séducteur, trompeur, fauteur de troubles et la femme blessée, lequel des deux sont les plus nauséabonds. Tout devient prétexte à la destruction de l'autre. Le langage outrancier m'a fait un peu sourire au début. Mais la logorée de la comédienne, je crois que ça m'a
choquée. La logorée ?
Oui.
Alors, un théâtre cathartique. Virginie Lemoine, donc c'est normal.
Un théâtre cathartique, peut-être. Ces scènes de rituel vaudou me font l'effet d'un profond malaise. Alors, la scène du début de la pièce donne le ton sur ce qui. En fait, au début, ces cris de fillette, là, comme pour conjurer le sort, avec cette scène de cul juste après. Je crois qu'en fait, moi, ça m'a mis. Je me suis demandé pourquoi impliquer des enfants dans ce sordide. Après tout, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gamins, dans cette pièce ?
Mais ça fait partie de l'histoire. Mais après, ça veut dire quoi ? On peut pas avoir des enfants sur scène ?
Non, mais en fait, je me dis pourquoi pas. Mais je veux dire, le théâtre, c'est du jeu. Donc pourquoi mettre des gamins Enfin, je sais pas. En plus, ça renvoie à toutes ces histoires de cul qu'il y a eu, d'agression sexuelle.
Non, là, vraiment.
Ça m'a renvoyé à ça. Non. Ça m'a renvoyé à ça. Et puis, du coup, j'en étais où ? Donc, plus largement. Et puis, toutes ces femmes-là qui sont dénudées, qui perdent complètement leur dignité, ça me fait penser à de la prostitution. En fait, et ça fait perdre toute la dignité de ce qui fait notre humanité.
Bah, prostitution et dignité, c'est moi, bon, il faut parfois être un peu plus nuancé quand même.
Bah, pour moi, le corps, en fait, le corps, à partir du moment où tu vends ton corps, tu perds ton essence
elle
même.
Elle vend son corps aussi.
Non, alors, tu peux pas dire ça.
Donc, t'étais quand même un peu choquée, disons.
Bah, moi, en fait, ça m'a. Pour moi, c'est de l'égocentrisme pur et dur. C'est de la masturbation. J'ai pas vu de. Enfin, en tout cas, j'ai pas été emportée par cette. Et c'est beau de t'entendre, en tout cas. Pour moi, j'ai rien vu de sorcier. Et pour moi, c'est de la prostitution. Enfin, ouais, ça me renvoie à de la prostitution.
Bon. Donc, je dois te couper, Alice, parce que c'est la fin de notre émission. Mais allez vous faire votre avis. Voir Voodoo, ne le ratez pas. 3318 Blixen d'Angelica Lida. Vous avez jusqu'au 12 avril pour voir cette magnifique pièce. Ce soir, on vous a également parlé de Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid, de Julien Leukowski au théâtre Paris-Villette jusqu'au 4 avril. Au-delà de toute mesure, de Elsa Agnès au théâtre de la Tempête jusqu'au 12 avril. Goodbye Lindita de Mario Banucci aux Ateliers Berthier jusqu'au 5 avril. Alors, cette invitée, nous avons reçu des Delphine Eckey pour nous parler de son spectacle Requiem pour les vivants au Théâtre de la Tempête jusqu'au 12 avril. Et cette émission a été préparée par Thomas Adam Garnon, présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Léna, Julie, Alice, Julien et réalisée par notre cher Guigui. On vous dit au revoir à lundi 27 avril à 20h sur Radio Campus Paris. Bisous.
Ciao.
Et allez voir Angelica. Allez voir.
La prostitution.
Bisous.